Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chèques qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement. Là.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Allô, allô.
Rentrée scolaire lundi. Yasmine, as-tu été rassurée hier par ce point de presse?
Rassurée, je ne sais pas, mais ça s'inscrit un peu dans l'air du temps. Les enfants vont revenir à l'école. Évidemment qu'il y avait des petits enjeux communicationnels quand on nous parle de délestage dans les écoles et de la contribution des parents pour surveiller quelques classes le temps que des enseignants reviennent. Je sourcille et je me dis qui a eu la brillante idée d'écrire cette ligne-là parce qu'elle est vraiment pas bonne. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Tu vas me dire les N95, les purificateurs d'air? Oui, oui et oui. Mais quand on voit que Dr Luc Boileau à côté dit que les N95 ne sont pas nécessaires, et j'aimerais quand même noter la différence entre le langage politique et le langage scientifique. Lui dit qu'ils ne sont pas nécessaires. Le gouvernement disait jusqu'à il y a quelques jours qu'ils pouvaient être dangereux et qu'ils pouvaient constituer un risque. Donc, on évolue. Alors, je suis optimiste, on est vendredi.
Dans deux semaines.
Je veux voir les choses de la bonne manière.
Je suis prête à parier que dans deux semaines, on va les permettre.
On va les envoyer. Tout d'un coup, les N95, ils vont évoluer de dangereux à pas opportun, pas nécessaire, à tout d'un coup... On va les encourager pour finalement les obliger. C'est toujours comme ça depuis le début de la pandémie, mais on évolue. On évolue, Philippe-Vincent, on évolue, Dominique. C'est ça la bonne nouvelle du point de presse.
Dominique.
Moi, je suis content que tu te ranges finalement du côté des optimistes. Yasmine, il était temps, là, après 22 mois. Tu sais, mais je prends date, là, le 14 janvier 2022. C'est là que tu t'es dit les choses s'en vont dans le bon côté.
Ben, quand même.
Non, mais pour vrai, ce que je comprends pas, en fait, c'est que pourquoi ne dit-on pas, si les profs considèrent, pour eux, parce que là, c'est le nouveau gadget, là, le N95, là, tout le monde en parle.
Oui, l'Association médicale canadienne le suggère et le recommande pour le grand public. L'Ontario le fait pour les professeurs, le Manitoba aussi. Le CDC risque de changer sa recommandation aux États-Unis bientôt là-dessus pour le recommander aussi au public. Là.
Donc,
au Québec.
Si ça fait plaisir aux profs, qu'ils s'en procurent et il n'y a aucun problème pour qu'ils le portent en classe. C'est pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la porte en disant, mais écoutez, si pour vous, là, professeur, enseignant, c'est quelque chose de très important, allez-y. Au lieu de dire, ben écoutez, non, nous, on voit pas la nécessité pour l'instant, on n'est pas rendu là, dites, ben prenez-en, achetez-en, organisez-vous, puis portez-les. Puis juste d'ouvrir cette porte-là, je pense que ça ferait baisser la pression un tout petit peu, plutôt que de faire point de presse après point de presse pour dire, exactement dans le champ lexical que Yasmine utilisait tantôt, c'est dangereux, faux sentiment de sécurité, on a déjà entendu ça pour d'autres masques, et le reste. Donc, je comprends pas, il me semble que ça coûte pas cher que de dire, écoutez, s'il y a des profs qui souhaitent s'en procurer, il y a aucun problème, nous, on n'empêchera pas les profs d'en porter en classe.
J'ai une idée comme ça que vous pourrez partager avec le gouvernement si vous voulez. Pourquoi on va pas plus loin puis on dit, regardez, il y a certains profs, on va vous les fournir, on va vous les donner, et on va même demander à des professeurs d'université, des chercheurs, des experts, de faire une surveillance et de voir si ça change quelque chose. De faire des sondages. Êtes-vous plus à l'aise? Est-ce que vous êtes plus confortable? Est-ce que les jeunes en arrière entendent? Est-ce que les profs qui ont eu des N95 n'ont pas eu la COVID alors que ceux qui avaient des masques dans la même classe, par exemple, l'ont obtenu ou ont été contaminés? Peut-être qu'on pourrait saisir l'occasion pour dire, faisons nous-mêmes nos recherches. Dans deux semaines, un mois, quatre mois, six mois, on sera en mesure de dire ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas.
Je ne sais pas si le gouvernement va vouloir aller là. Le problème, c'est que on a déjà joué dans ce film-là. C'est pour ça que tout le monde est comme, s'ils nous disent-tu la vérité? T'sais, c'est exactement le même débat qu'il y avait au début sur les masques. Les masques, vaut mieux ne pas en porter. Ça pourrait être plus dangereux à en porter que ne pas en porter. Il y a des risques. Et aujourd'hui, c'est ce mauvais film auquel on a joué en début de pandémie qu'aujourd'hui fait en sorte que on les regarde, on est comme ils nous disent-tu la vérité, les risques vont-ils être amoindris si on décide de porter notre masque N95? Évidemment que un professeur qui décide d'aller dans un magasin grande surface où il les vend de la N95 puis décide de le porter en classe, et la CSST va pas débarquer là-dedans pour lui dire t'as pas le droit de le porter. Ça va, c'est une évidence. Par contre, là, c'est le gouvernement qui ne veut pas en fournir dans les écoles. Il n'est pas dit non plus que tous les professeurs veulent porter le N95, mais le plus important, c'est d'en fournir pour ceux qui le désirent, ceux qui veulent se sentir en sécurité pour enseigner, pour être en contact avec des élèves qui sont soit vaccinés, soit pas vaccinés. Pour moi, c'est la moindre des choses. Je pense qu'on va finir par y arriver. Je pense qu'ils sont en train de régler des questions d'approvisionnement et qu'on va finir par y arriver parce que je peux pas croire. Là. Anyway, on a déjà joué dans le film. On sait comment ça se termine. C'est une obligation de le porter.
Dominique, sur les autres mesures qui ont été annoncées, là, fin du couvre-feu lundi, est-ce qu'on t'a convaincu que ça valait la peine d'avoir un couvre-feu? Est-ce qu'on te convainc que le passeport vaccinal pour les grandes surfaces comme le Costco, le Walmart, le Canadian Tire, les Sports Experts et autres, c'est une bonne chose aussi?
Ben moi, c'est sûr que ça a été tellement court. C'était quoi, 5 semaines, le couvre-feu, que je trouve que ça
ben, même pas.
Cinq semaines déjà?
Je pense que ça fait 5 semaines, oui.
Ben, on est le 14 janvier, là. Ça fait 2 semaines. Excusez, là, mais le temps est long à Québec, là. 5 semaines, Dominique, ça fait 2 semaines, le couvre-feu.
Je compte en jour de chat, là, tu sais, chaque jour vaut plusieurs années. Non, mais...
Le soleil se couche 2 fois à Québec.
Ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça a été court pour qu'on puisse affirmer hors de tout doute ensuite que ça a vraiment eu un impact. Ceci étant, je me réjouis que ça se termine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, manifestement, avaient énormément de choses à faire en 22h et 5h dehors.
Et moi, j'ai vu beaucoup de monde sur les routes cette nuit par rapport aux autres soirs depuis le couvre-feu.
Pour vrai?
Ah oh, ouais, au moins le triple. C'est, en même temps, je voyais personne depuis 2 semaines, mais...
Mais non, c'est ça.
Mais il y a vraiment considérablement beaucoup plus de monde, moi, cette nuit sur les routes.
Écoute-nous, moi, mais... il n'y a pas beaucoup de gens qui se promènent, même quand il n'y a pas de couvre-feu autour de chez nous. Là, fait que c'est difficile pour moi d'évaluer. Ceci étant, moi, je me réjouis du retour à l'école. Je me réjouis des grandes surfaces aussi. N'importe quoi qui va faire en sorte que des gens vont décider de prendre rendez-vous pour leur première dose, je suis d'accord. Okay? Donc, c'est simple, que ce soit de la contribution santé jusqu'à la SQDC. Là, sur tout ce spectre-là, moi, je suis d'accord parce que ultimement, c'est ça la variable qui est la plus importante. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, c'est la vaccination qui réduit le plus les chances de développer une forme grave de la maladie. Fait que moi, pour ça, là, je serai toujours du bord de ceux qui sont d'accord.
Dominique, il est toujours d'accord avec les mesures du gouvernement, peu importe qu'elles soient cohérentes,
Dominique, vendredi matin, tu te fais attaquer comme ça.
Ben non, mais c'est correct. Moi, souvenez-vous que vous parlez à quelqu'un qui suit les flèches à terre à l'épicerie.
C'est vrai, hein? C'est vrai.
Ne perdez jamais ça de vue, ça va vous permettre d'expliquer beaucoup de mes raisonnements.
Comment tu fais quand les flèches décollent?
Je vais plus.
Parce que moi, tu vas plus à l'épicerie.
Change d'épicerie, c'est plus simple comme ça.
Non, mais honnêtement, pour le couvre-feu, personnellement, là, je suis dans mon lit à 10 heures. Mais savoir que j'ai pas le droit d'être dehors me cause un stress. Et honnêtement, 2 semaines, ça a duré 2 semaines. Puis Dominique dit, on sait pas assez long pour pouvoir savoir si ça a eu un impact ou pas. On l'a quand même vécu pendant plusieurs mois l'année dernière, puis c'était pas bien fun, tu sais. Fait que on a déjà vécu le couvre-feu pour une période beaucoup plus longue. Mais 2 semaines, c'est quand même 2 semaines dans lesquelles des libertés sont suspendues sans nécessairement avoir des raisons, des justificatifs qui soient très clairs sur leur impact. Moi, je me réjouis du fait qu'on lève cette mesure-là puis qu'on impose des mesures comme le passeport vaccinal dans les grandes surfaces parce que ça, évidemment, ben ça a un impact réel parce que ça diminue le nombre de non-vaccinés dans des milieux où on n'a pas le choix d'aller, où on veut aller, où on veut continuer de vivre. Et ça, je pense réellement que ça va avoir un impact sur le taux des premières doses qui vont être inoculées dans les prochains jours.
Bon. Parlons de Marguerite Blais, Dominique, ministre des Aînés, qui va être devant la coroner aujourd'hui. Est-ce qu'on s'attend à de petites explosions, à quelque chose qui pourrait mettre le gouvernement dans l'embarras?
Ben, moi, si j'étais encore membre du gouvernement, je serais assis devant mon téléviseur. Je sais pas si ça va être télévisé. Je pense que le PQ avait demandé que ce soit télévisé. Mais en tout cas, je m'organiserais pour trouver un lien où est-ce que je suis capable d'écouter ce qu'il va se dire. Parce que,
mais tu le mettrais pas sur la page Facebook du gouvernement en direct, là.
Peut-être pas, ça serait trop ça serait trop large comme diffusion parce que moi ça m'inquiéterait honnêtement. Madame Blais nous a démontré dans sa dernière grande entrevue qui était avec Enquête, je crois, ouais. Il y a de cela déjà quelques dizaines de mois là, que si la pression montait, elle était vite pour mettre quelqu'un en dessous de l'autobus. Hein, la dernière fois, c'était le premier ministre. Là, je sais pas qui ça pourrait être, mais il y a un risque pour des collègues députés, pour des collègues ministres. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en communication au gouvernement qui ont plutôt hâte à 17h qu'à 8h30 ce matin.
Yasmine.
Ben Marguerite Blé que disait à Dominique, oui, elle a souvent ce réflexe de vouloir tellement se protéger qu'elle oublie qu'elle joue en équipe, puis que peu importe qui sont les autres, est-ce qu'ils font partie de son équipe ou pas, c'est pas grave, elle peut les sacrifier pour pouvoir protéger son image. Et évidemment, ben là, ça va être très important. Va-t-elle encore ressortir la cassette qui sort aussi moins que c'est le parent pauvre, les CHSLD, c'est le parent pauvre, les personnes aînées, qu'elle s'est toujours battue, que ce sont leitmotiv politiques. Si c'est ça, ben je pourrais lui écrire son discours. Il est déjà connu depuis une dizaine d'années. Autrement, j'espère apprendre plus sur ce que Madame Blais a titre de ministre. Et là, c'est toute la question de l'imputabilité ministérielle, la responsabilité ministérielle. Elle, c'est quoi les questions qu'elle a posées, c'est quoi les demandes qu'elle a formulées, puis quels sont les suivis qu'elle a faits à titre de ministre. Si elle n'est pas capable de répondre à ces trois questions, ça risque d'être une catastrophe, son audition devant la coroner.
Allons-y avec une seule question. Se sentait-elle en charge? Moi, si on est capable d'avoir une réponse à cette question-là, là, je pense que déjà c'est éclairant pour le reste.
Oui, mais Dominique, ça, elle a déjà eu cette question-là, puis à Enquête notamment, puis elle a dit, vous savez, on a est le souvent pouvoir qu'elle PM qu'on en est responsable. Voilà, c'est ça sa réponse.
Elle a une deuxième chance d'avoir la bonne réponse.
Ouais, mais en même temps, M. Arruda est plus là, puis déjà, on sentait qu'elle voulait peut-être le blâmer un petit peu là-dedans. Alors peut-être qu'il pourrait servir de bouc émissaire et tout le monde en sera content. Aujourd'hui, je voulais vous entendre sur ce sondage Main Street qui a été réalisé pour l'actualité du 6 au 8 janvier sur les intentions de vote au Québec. La CAQ qui descend quand même pas mal à 38%. On s'entend que pas mal tous les autres partis seraient bien contents d'avoir ces chiffres-là. Le Parti libéral du Québec, 20%, ça bouge pas. Ça, c'est comme une constante. Les autres sont à 20, peu importe. Québec solidaire à 19, un point derrière le PLQ. Parti conservateur à 13 et le Parti québécois à 10. Dominique, c'est un bon sondage pour presque tout le monde, sauf les libéraux puis le Parti québécois, ça?
Ouais, mais bon, est-ce que c'est un bon sondage, premièrement? Parce que moi, quand je vois dans les sous-échantillons, puis je sais que ça peut ne pas être représentatif, mais que le PQ scorerait plus fort, ou aussi fort, en tout cas, chez les Anglos que chez les Franco, j'ai un doute, que le Parti conservateur serait autour de 20-22% à Québec, j'ai un doute. Moi, si je fais le tour de mon quartier, je pense pas que je vais trouver une personne sur quatre qui a envie de faire un X à côté du nom d'Éric Duhaime. Ceci étant... c'est un sondage qui est scientifique. Est-ce que c'est un sondage qui, une fois de temps en temps, ce qu'on dit en anglais, les outlier polls, là, qui sort un peu de la marge, puis que dans 5-6 sondages, on va pouvoir se dire finalement, il est à côté de la plaque, ou est-ce que c'est un sondage qui détermine une nouvelle tendance puis une nouvelle réalité dans la vie politique québécoise? Ça, il y a que l'avenir qui va nous le dire, mais je sais que hier, il y avait deux partis qui étaient très, 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 très fiers de le partager. C'était le parti d'Éric Duhaime, le Parti conservateur, et évidemment Québec solidaire, qui disait « on n'a jamais été aussi haut de notre vie dans un sondage ». Enfin, en tout cas, eux, je pense qu'ils préfèrent que ce soit un prédicteur de tendance, alors que le PQ, la CAQ et les libéraux préfèrent se dire « c'est probablement un sondage dont on parlera plus dans deux
semaines ». Mais Dominique, tu l'as dit, les deux partis qui étaient contents, c'est Éric Duhaime qui est complètement à droite de l'échiquier politique et Québec solidaire qui est complètement à gauche de l'échiquier politique. Et là, ça, on peut dire qu'il y a une polarisation des intentions de vote quand ça va des deux côtés là de manière aussi marquée. Je sais pas pour la qualité du sondage, mais ce qui est certain, c'est que c'est sûr que les dernières semaines vont coûter des points politiques à François Legault, qui peut se permettre d'en perdre, étant donné qu'il caracole dans les sondages depuis plusieurs mois, il peut se permettre d'en perdre quelques-uns et être largement majoritaire en octobre prochain, ce qui n'est pas des bonnes nouvelles pour les libéraux qui qui sentent le souffle de Gabriel Nadeau-Dubois et de Québec solidaire sur leurs épaules et qui ne changent pas d'un iota dans leurs intentions de vote. C'est là où le bas blesse. Québec solidaire pourrait se retrouver opposition officielle si la tendance se maintient.
Wow, ça serait surprenant.
Je veux juste prendre une seconde pour saluer la préscience des libéraux qui disaient on est comme Québec solidaire, mais fédéraliste. Il y a juste un point qui les sépare aujourd'hui.
Bon, puis en même temps, à la CAQ, on aime mieux être à 38 qu'à 45, avoir tous les députés les plus chialeux dans notre caucus, on aime mieux les avoir dans l'opposition. Yasmine Dominique, à lundi.
Salut. À lundi.